que l'assure.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la Libre Antenne, bienvenue si vous nous rejoignez, merci de votre confiance. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur les sujets de la semaine. Et des sujets, il n'en manque pas, si j'en crois les réactions qui nous arrivent au standard et sur nos réseaux sociaux. On parlera, si on a le temps, évidemment du Tchad, mais aussi de la Guinée, du Gabon, de cette décision de la FIFA qui a suspendu la Fédération Congolaise de Football jusqu'à nouvel ordre. Des réactions également sur les déclarations fracassantes de Donald Trump sur la bande de Gaza. Et on va commencer, car vous êtes nombreux encore à souhaiter prendre la parole sur ce projet du gouvernement sénégalais d'indemniser les victimes des violences politiques de 2021-2024. Le gouvernement a annoncé une première série d'aides et notamment versé 10 millions de francs CFA, 15 300 euros pour chaque famille endeuillée. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et vous n'êtes pas d'accord, vous, sur la façon de faire du gouvernement?
Bon, je dirais, ne pas d'accord, c'est un peu trop dit, mais je dirais que c'est sur la forme. L'indemnisation des victimes des événements de 2021 jusqu'à 2024, ça englobe beaucoup de choses. D'abord, il faudrait qu'il y ait une commission vraiment nationale capable de recenser tous les victimes, oui, que ce soit du côté des manifestants, que ce soit du côté de ceux qui ont perdu leur commerce, et du côté des forces de défense et de sécurité.
Alors, Ousmane, je rappelle que cette commission, elle est censée voir le jour assez rapidement. Le gouvernement l'a annoncé. Et c'est vrai, ce qui peut choquer une partie de l'opinion publique sénégalaise, c'est que cette première série d'aides accordées par le gouvernement ne concerne, on va dire, que la partie manifestant. Et nombreux se disent, mais attendez, dans les victimes, Il y a tous ces commerçants qui ont perdu leur boutique saccagée par les manifestants au moment des manifestations. Et il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi les forces de l'ordre. Vous en parliez. Certes, elles ont réprimé, mais dans les rangs des policiers, certains ont été blessés par les manifestants.
Effectivement, cette indemnisation doit être vraiment équitable. Et moi, ce qui me choque le plus, parmi ces manifestants-là, il y a certains qui ont brûlé des bus. Il y a certains qui ont saccagé des commerces. Comment indemniser ces gens-là, entre guillemets, ces fouteurs de troubles, et laisser les gens qui ont investi beaucoup d'argent dans le pays, les forces de défense et de sécurité qui assuraient la sécurité des Sénégalais et de leurs biens, oui, et vraiment privilégier, on peut dire, une partie des militants de leur régime. Moi, je pense que cette situation-là doit être vraiment éclairé et que cette indemnisation soit équitable pour tous ceux qui ont perdu, oui, soit de manière humaine ou bien perdu leur emploi ou bien leur commerce.
Alors l'opposition,
et ça, c'est bon pour le Sénégal.
L'opposition dénonce une indemnisation partisane puisqu'elle, pour l'instant, elle ne concerne que, d'après l'opposition, que les partisans, les sympathisants du PASTEF qui sont descendus à plusieurs reprises dans la rue les trois dernières années du mandat de Macky Sall pour réclamer notamment la libération d'Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est donc Premier ministre. Ousmane, ne raccrochez pas, je vous présente Babacar, l'un de vos compatriotes. Babacar est à Saint-Louis, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gomez.
Le sujet fait réagir. Avez-vous un avis tranché sur cette question des indemnisations des victimes?
Oui, bonjour, Monsieur Gomez. J'ai bien entendu mon compatriote Ousmane. Par contre, moi, je dirais que cette indemnisation est arrivée très tard. Il fallait très tôt que l'État du Sénégal puisse prendre en charge ces victimes, parce qu'elles sont dans un cas très urgent. Ça ne peut pas attendre. Et comme vous l'avez dit, ce sont d'abord les victimes des violences. Il y a une commission qui doit être mise en place. Et je pense bien, d'ailleurs, même il y a une commission de réclamation et d'identification de toutes les victimes. Alors là, ces personnes, ces familles, on ne pouvait pas attendre que le processus aboutisse. Il fallait que l'État responsable puisse venir en charge, prendre en charge ces familles-là.
Ouais, donc les...
Et elles sont plus identifiées.
Babacar, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement a bien fait de ne pas attendre la mise en place de cette commission et les conclusions de la commission pour commencer à aider financièrement les victimes. Mais Ousmane pointait du doigt, qui sont les victimes? Les victimes, elles sont nombreuses. Il y avait les manifestants d'un côté, les commerçants de l'autre. Je rappelle que des stations-service ont été incendiées, des voitures de particuliers ont été saccagées. Ces personnes-là, pour l'instant, elles ne sont pas prises en compte.
Monsieur Gomez, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs types de victimes. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a une commission qui est en train d'être mise en place et il y a un service de réclamation. Maintenant, c'est les cas les plus jugeants qui ne peuvent pas attendre. Il y a des blessés, il y a des familles qui sont diminuées de façon extraordinaire, mais l'État ne peut pas attendre. Le bureau de réclamation est en train d'enregistrer et avec l'État, ils sont en train même d'identifier d'autres personnes, d'autres acteurs qui n'avaient pas eu la possibilité ou bien l'information pour savoir qu'il y a un bureau d'identification. Rien n'est perdu.
Le débat est loin d'être clos. Il ne fait que commencer au Sénégal. Et on aura l'occasion, c'est promis, très vite, de vous redonner la parole. Ousmane à Dakar, bonne journée. Babacar à Saint-Louis également. Et la prochaine fois, si vous passez, essayez de vous mettre à l'extérieur, comme mes camarades techniciens vous l'ont demandé. Ça permet d'avoir un meilleur réseau et que vous soyez plus audible sur l'antenne de RFI. 9h46 à Paris, c'est la Libre Antenne. Élie nous rejoint. Bonjour.
Bonjour Juan.
À Abidjan, Côte d'Ivoire, et vous êtes très en colère après les propos de Donald Trump sur la bande de Gaza. Je rappelle que le président américain a affirmé vouloir prendre le contrôle du territoire, vouloir transférer une partie des Gazaouis en Jordanie, en Égypte, et il veut transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient.
Mais c'est cela, je pense que c'est très choquant ce qui a été déclaré par Donald Trump. Déjà, dans la forme, il y a quelque chose qui est notable. On a deux personnes, donc en fait, qui sont des personnes blanches, qui sont plus ou moins proches des suprémacistes aux États-Unis et en Israël, et qui vont parler d'un territoire qui ne leur appartient pas, donc qui est le territoire des Palestiniens, et qui décident de s'accaparer des terres des Palestiniens. Et ce qu'on ne dit pas assez, et ça je le reproche souvent dans les médias, on ne dit pas assez ce qui en est en fait. Ce qu'il en est, c'est que c'est un nettoyage ethnique que Donald Trump et Netanyahu, sont en train de préparer et d'organiser tout simplement. Et c'est un crime contre l'humanité. Je pense que ce n'est pas assez dit.
Alors, ce n'est pas assez dit. Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique après justement les propos de Donald Trump. Vous avez l'impression, Élie, si je crois ce que vous avez dit au Standard, certes, il y a des condamnations, certes, les propos provoquent un tollé international, mais vous souhaiteriez que, justement, ces réactions soient plus fortes, plus virulentes.
Tout à fait, parce que, comme je le dis, on a eu déjà le premier mandat de Donald Trump où il avait violé un statu quo concernant Jérusalem. À part les quelques communiqués qui ont été produits par les différents États, les différentes institutions internationales. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en fait pour protester? Il n'y a rien qui s'est passé.
Mais vous ne pouvez pas dire, excusez-moi, Élie, j'entends votre colère, mais vous ne pouvez pas dire quelques communiqués. Les réactions, il y a un déluge de réactions, de critiques internationales.
Je veux dire que c'est que des déclarations. Pendant que Donald Trump, lui, il va passer à l'offensive.
Oui, mais pour l'instant, vous-même, ce ne sont que des déclarations également du côté de Donald Trump. Pour l'instant.
Oui, mais on sait que cette déclaration de Donald Trump, il est très dangereux. Et en plus, il a une puissance avec lui. Il a une puissance militaire qu'il n'hésitera pas à mettre en route pour pouvoir justement commettre son crime contre l'humanité. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon point essentiel, c'est de dire qu'est-ce que le monde fera concrètement pour l'empêcher quand il va démarrer cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est des déclarations. Moi, je trouve que la réaction, elle est trop faible. Et comme je le disais au Standard également, le traitement médiatique de la chose, je trouve qu'il est très, très, très minimisé. En fait, on ne met pas en avant le crime contre l'humanité. On dit oui, il faut le répéter quand on en parle. Il faut insister sur le fait que...
Je reviens... Élie, s'il vous plaît, je reviens sur le fait qu'il n'est pas encore passé à l'acte. Que pour l'instant, il s'agit d'une déclaration d'intention. Vous disiez qu'il a la force militaire. Hier, Donald Trump a dit qu'aucun soldat américain ne sera déployé sur Gaza pour prendre le contrôle du territoire. Faut-il le croire ou pas? Bon, moi, je ne fais que reprendre ses propos. Oloman souhaite également réagir sur cette actualité. Bonjour, Oloman.
Bonjour, M. Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
D'accord. Je souhaite aborder dans le même cadre que mon prédécesseur. Mmh. Vous savez, M. Donald Trump, il dit tout ce que l'Occident pense tout bas. Et je crois qu'avec tous les moyens déployés par Israël et les États-Unis pour financer, armer Israël pour pouvoir attaquer Gaza, je pense que ça ne serait que tarder. Si ça a trop duré, peut-être dans une vingtaine d'années, on n'entendra plus parler de Gaza. Ce sera comme il a dit.
Oui, mais Holoman, excusez-moi, je vais vous contredire. Vous dites, il dit tout haut ce que l'Occident pense tout bas. C'est une belle phrase, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi quand vous dites l'Occident? Vous avez l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'ensemble de la communauté internationale qui est vent debout après les déclarations de Donald Trump. Donc vous ne pouvez pas dire que l'Occident est derrière Donald Trump. Sur ce point, en tout cas.
C'est juste des condamnations, c'est juste des paroles en l'air. Parce que vous êtes d'accord avec moi que depuis la création de l'État d'Israël, la solution à deux États a toujours été sur la table.
Et elle est toujours sur la table, Loman, cette solution.
Elle ne sera jamais appliquée parce que ceux qui votent les résolutions sont ceux-là même qui arment les Israéliens pour pouvoir chasser les Palestiniens de leur terre.
Et donc, alors, qu'attendez-vous désormais donc, de la communauté des Occidentaux, pour reprendre votre formule, Holoman?
Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on puisse joindre les actes à la parole. La solution à deux États est toujours sur la table. Pourquoi ne pas l'appliquer pour permettre aux Palestiniens de vivre au moins un peu heureux sur leur propre terre?
Holoman, merci en tout cas de votre point de vue. Je remercie Elie qui nous appelait, lui, d'Abidjan, où il est 8h52. C'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Michel nous écoute à Valence. C'est en France. Bonjour Michel. Allô Michel ?
Oui, je vous entends.
Ah bah c'est moi qui ne vous entendais pas. Excusez-moi Michel, vous souhaitiez profiter de la Libre Antenne pour revenir sur cette attaque de l'armée djiboutienne menée contre un groupe rebelle dans le sud-ouest du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Éthiopie. On en a parlé sur RFI, dans nos journaux Afrique. Et qu'avez-vous envie de nous dire, Michel, sur cette attaque? En quoi elle vous choque? Car elle vous choque.
Ce qui me choque, c'est que vous parliez de groupes rebelles, alors qu'il s'agissait d'un campement nomade Afar et qu'il s'agissait d'une attaque en territoire éthiopien, à la limite, à la frontière avec Djibouti, mais c'était un campement qui s'est situé en Éthiopie. Et ce n'est pas la première fois que l'armée djiboutienne attaque en Éthiopie. Et en plus, c'était une attaque avec des drones tueurs qui ont tué 14 personnes, dont 4 femmes, et qui ont fait des blessés, beaucoup de blessés, parmi elles, des femmes et des enfants.
Alors, donc, Michel, oui, on dialogue, on discute. Donc, je vous ai laissé parler. Laissez-moi maintenant vous répondre. L'armée dit avoir attaqué, effectivement, avec des drones tueurs, donc des drones qui ont tué 8 personnes qualifiées de terroristes par le ministère de la Défense, un groupe armé, je n'ai plus le nom, je vais retrouver
civils.
Le nom. Et, pardon ?
Ce sont des civils.
Alors, vous,
c'est la Ligue djiboutienne des droits de l'homme qui a fait un communiqué le lendemain même. Et le communiqué de l'armée, il date du 1er février, en réponse à la Ligue djiboutienne des droits de l'homme.
Michel, mais vous m'avez coupé la parole, mais vous avez raison, c'est ça le débat. Mais ce que je voulais vous dire justement, c'est que le ministère parle de 8 terroristes tués, alors que la Ligue djiboutienne des droits de l'homme parle de 14 personnes tuées. Et la Ligue djiboutienne des droits de l'homme dénonce un crime de guerre commis par l'armée djiboutienne.
Bon, et ce n'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Bah écoutez, oui, non, mais je veux bien vous croire, Michel. Moi, je n'ai pas plus d'informations que ce qu'a dit le ministère de la Défense de son côté et de l'autre côté, la Ligue djiboutienne des droits de l'homme.
Voilà. Donc, je voulais vous dire que également, l'armée djiboutienne est entrée en octobre 2019 dans le territoire éthiopien et avait tué des vieillards et des femmes pendant leur nuit. Et également, il y a un an, le 24 février 2024, l'armée a pénétré dans le territoire éthiopien à proximité de Elidar. Donc, c'est une pratique que fait l'armée djiboutienne d'attaquer les nomades Afar parce parce que parmi les Afars, il y a des gens qui sont des démocrates et qui réclament que le gouvernement de Omar Guelleh, le gouvernement
djiboutien,
qui s'abrite derrière les bases, parce qu'il y a quand même 4 bases militaires étrangères, et pas les moindres, hein, puisqu'il y a la plus grande base US à Djibouti, et que Omar Guelleh se sent tout à fait à l'abri de ces bases militaires qui lui rapportent beaucoup d'argent.
Michel, voilà pour votre coup de gueule. Merci infiniment de votre confiance et continuez à nous écouter à Valence. Merci de votre fidélité. Bonne journée. Nous parlons de la Guinée, pourquoi pas ? Bah oui, c'est un sujet qui a suscité énormément de réactions, surtout les propos du porte-parole du gouvernement qui ont contredit ceux du général Doumbouya. Le général Doumbouya, président de la transition, avait dit en début d'année 2025 sera une année cruciale. En 2025, nous allons parachever le retour à l'ordre constitutionnel, donc le retour des civils au pouvoir. Et voilà que le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, a dit « Bon bah, toutes les élections en 2025, ça me semble difficile, ça me semble bien compliqué. » Bonjour Amara.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
Anzere Koré, vous avez été choqué par les propos d'Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement.
Franchement, Juan Gomez, j'ai été choqué lorsque j'ai aperçu sa déclaration et qui contredisait le discours de son chef d'État le 31 décembre. Donc ça nous a très mal mis en l'aise. Donc quand nous voyons ce qu'il a dit, qu'il sera pratiquement impossible de faire toutes les élections en 2025 là, et d'après le discours de son président le 31 décembre, s'attendait qu'on allait avoir au moins, même si au début du 2026, le 1er janvier, on allait se faire face maintenant au retour à l'ordre constitutionnel.
Ouais, le réseau téléphone, Amara, n'est pas très très bon. Je ne sais pas si on a Kolfa à Conakry. Bonjour Kolfa.
Oui, bonjour Juan et bonjour à l'ensemble de vos millions d'auditeurs. C'est Kolfa Mouria Kaba.
Très bien, soyez le bienvenu. La liaison téléphone a l'air un peu meilleure à Conakry qu'avec Nzere Koré. Vous avez vous aussi entendu les propos d'Ousmane Gawal Diallo? Est-ce que comme Amara, vous avez été choqué qu'il annonce au peuple guinéen que ça sera très compliqué d'organiser toutes les élections avant décembre prochain?
Non, moi je ne suis pas du tout surpris et je ne suis pas du tout choqué. Vous savez, Juan, le général Mamadi Doumbouya a eu toujours la volonté d'aller très vite pour mettre fin au processus électoral.
Enfin, très vite. Excusez-moi, Kolfa Mouria, très vite, on est déjà à 3 ans, plus de 3 ans de transition.
Oui, ce n'est pas la durée de transition qui fait le défaut. Mais vous savez, depuis son avènement au pouvoir depuis le 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya s'est d'abord à un travail qu'on appelle la refondation de l'État. Donc la refondation de l'État, ça demande beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Juan, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une opposition qui est en train de rejeter tout. Et ça ne fait pas une semaine, le général Mamadi Doumbouya a instruit à son premier ministre afin qu'un dialogue inclusif soit organisé.
Oui.
Mais on peut organiser avec qui? Qui ne sont pas les acteurs politiques?
Kolfa Mouria, excusez-moi, vous dites l'opposition s'oppose à tout. Vous avez une partie de l'opposition qui vit en exil. Vous avez des opposants qui sont en prison. C'est compliqué pour l'opposition d'accepter la moindre main tendue dans ce contexte, non?
Non, Juan, il faut faire la part des choses entre les amis judiciaires et la politique. S'il y a des opposants en Guinée qui ont affaire avec la justice, moi je pense bien qu'ils doivent venir faire face à la justice. Mais à ce qui concerne le cadre politique, le général Mamadi Doumbouya a toujours eu la volonté d'organiser et que la Guinée revienne vite à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en exil, il n'y a pas un acte qui a été posé par le général Mamadi Doumbouya pour que ces gens-là se retrouvent à l'exil. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont peur de la popularité que le général Mamadi Doumbouya a aujourd'hui en République de Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, lors du dernier meeting à Cancan,
oui,
on a vu une foule compacte qui réclamait sa candidature. Et la voix la plus autorisée, le général Amara l'a dit, la candidature du Mamadi Doumbouya ne souffre d'aucun...
Bon, il y a des meetings qui sont organisés ici et là pour soutenir une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. En même temps, vous savez bien et mieux que moi, vous êtes sur place, hein, Kolfa Mouria, que ça ne fait pas l'unanimité, que lui-même avait dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Et certains vous diront, mais on ne sait comment on remplit des stades ici et là pour demander au président de la transition d'être candidat à une élection présidentielle. En tout cas, là aussi, c'est promis, on reviendra sur ce sujet qui fait beaucoup réagir en Guinée. Merci à tous de votre intérêt, de votre fidélité. On s'excuse pour les petits problèmes de réseau téléphone, mais bon, voilà, ça fait partie, on va dire, du charme, du charme de cette émission. Lundi, première partie, émission spéciale, on répondra à toutes vos questions sur l'intelligence artificielle. Et puis en deuxième partie, évidemment, comme tous les jours, réaction sur l'actualité. Prenez soin de vous.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission « Appel sur l'actualité ».